Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Que quelqu'un lève sa voix ce matin et bénisse son saint nom. Oui, alléluia, alléluia à toi Seigneur, gloire à toi éternel. Alléluia. Toko kumisa nani soki yote Yesu. Toko sanjola nani soki yote. Yondo bongi na nkembo nyoso. Yondo tali kolona nyoso Yesu.
Kolona yo mosusu asante.
To tombo li onzambe na bomo. Oyo sala kana bomo ina biso enekela kabiso nkolo. Tu n'agis pas la manière des hommes lorsque tu nous reconnaissons de ce toi Seigneur. Tu as compris des choses extraordinaires dans nos vies, Jésus. Pour la nini to kumisa ote na songo alelo. Pour la nini to neto la ote Yesu. Pour la nini to sa ote nko. Pour la nini to la bate kembo kata na sanjo le zonde sana yo. Yesu to tombo ni yo. Yesu to pambo ni yo. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Hallelujah. C'est avec raison que ce matin nous disons Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire pas à un homme, mais à notre Dieu. La louange te convient. Comme disait quelqu'un, la louange, c'est un habit taillé sur mesure pour toi et toi seul. Et ce matin, nous te la redonnons, car toi seul, on est dit. Au-delà de cette louange que nous te donnons, ce matin, nous voudrions aussi te dire, parle-nous. Ce matin, nous voulons nous abandonner comme l'argile entre les mains du potier, afin que tu nous modes, tu nous façonnes. Fais-le au travers du mystère de la prédication. Au nom de Jésus.
Amen. Merci Seigneur.
Nous allons relire Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 21 à 22.
Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21 à 22.
Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour David, auquel il a rendu ses témoignages. Je trouvai fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous allons lire aussi un certain nombre de passages dans les livres et les chroniques. D'abord, 1 Chronique, chapitre 13, du 1er au 5e verset, et puis le verset 8. Chapitre 13, plutôt, du 1er au 5e verset, et puis le verset 8e. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. » J'aime la suite. « Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Donc soulignez bien cela. « Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis les chicheurs d'Égypte jusqu'à l'entrée des Hamat, pour faire parvenir des Kirjathim l'arche de Dieu. Verset 8, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Ajoutons aussi 1 Chronique chapitre 16. Et là, nous lisons les versets 4 à 7. Et puis les versets 3. 1 Chronique 16, 4 à 7. Et puis 37. David remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jeël, Shemiranoth, Jeël, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jeël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir, sans Benaja et Jacaziel, sonnait continuellement de trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. Et j'aime les versets. Ce fut en ces jours que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Verset 37 du même chapitre. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent, et j'aime l'adverbe utilisé, continuellement des services devant l'arche, remplissant leurs tâches jour après jour. Terminons avec 1 Chronique toujours, chapitre 17, versets 1 à 4, et puis verset 16. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, pour que j'en fasse ma demeure. » Et puis verset 16. Et le roi David alla chez l'Éternel et dit, qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Alléluia. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler sur ces grands thèmes, ce que Dieu m'a montré pour demain. Et depuis dimanche passé, nous avons abordé la troisième chose que Dieu nous a montré. Dieu dit qu'il veut avoir de nouveau des hommes et des femmes ayant le cœur de David. Un cœur que Jéhovah aime, un cœur que Jéhovah apprécie. Il a déjà aimé et apprécié en son temps et qu'il aimerait encore trouver et apprécier en notre temps et en notre époque. Souvenez-vous, citant Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, nous avons mentionné trois choses importantes qui ressortaient. La première, c'est qu'en ces temps-là, Dieu avait trouvé quelqu'un. Et nous avons dit que nous ne pouvons parler de trouver que s'il y a une recherche au préalable. Et croyez-moi, en ces temps, Dieu cherche. Et si Dieu peut trouver, il fera avec vous, avec nous, ce qu'il a fait avec David en son temps. Mais deuxièmement, nous avons dit, non seulement qu'il avait trouvé, mais il avait trouvé un homme ayant des particularités. Il a trouvé un homme, selon que lui-même l'a dit, selon son cœur. Un homme qui va faire les choses que Dieu aime. Un homme qui répond aux souhaits et aux rêves du Créateur. Un homme tel que Dieu veut que les hommes puissent être réellement. Et la troisième chose concernant cet homme, il était dit que cet homme, non seulement qu'il a été trouvé, non seulement que cet homme sera un homme selon le cœur de Dieu, mais c'est un homme qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Un homme qui accomplira les désirs de Dieu. Un homme qui va transformer les soupirs de Dieu en réalité. Un homme qui connaît le nombre de Dieu, même avant que Dieu les mentionne. Tellement il est proche de Dieu. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ce que Dieu préfère. Et pourquoi il accomplira toutes les voies de Dieu? Nous avons dit premièrement, parce qu'il cherchera à les connaître. Il ne peut les accomplir parce qu'il cherche ou il cherchera à les connaître. Et deuxièmement, il les connaîtra parce qu'il aura soif de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il les connaîtra, mais il les connaîtra parce qu'il aura cette soif. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est meilleur pour Dieu. Et troisièmement, il mettra son intelligence, il mettra tous ses moyens afin de savoir non seulement ce que Dieu veut, mais chaque fois qu'il saura ce que Dieu veut, il placera cela en premier. La volonté de Dieu et la volonté de Dieu en tout temps. Et citons le psaume 89 du verset 21 à 34, nous avons montré ce que Dieu parle par la bouche de son serviteur étant, il dit, parce que cet homme est selon mon cœur, voilà les choses que je vais faire pour cette personne. Et nous avons longuement parlé de ça en mettant en exergue six choses que Dieu s'est promis de faire pour cette personne. Mais nous avons dit que cette personne, selon le cœur de Dieu, remplissait certains critères. Nous avons dit qu'il y en avait quatre. Et parmi quatre, les quatre, les dimanches, nous avons mentionné deux. La première, c'est que cet homme, David, était un homme qui s'est fait remarquer parce qu'il aimait chanter pour Dieu. Et nous avons dit que le plus important, ce n'est pas qu'il chantait. Le plus important, ce n'est pas cet exercice, mais le plus important, c'est ce qui est derrière. Cet exercice cachait une relation, une intimité, un désir ardent d'être en communion avec le Créateur. Mais deuxièmement, nous avons dit que cet homme, c'était un homme qui aimait danser pour Dieu. Est-ce la danse en elle-même est importante? Nous avons dit le plus important, c'est ce qui était caché derrière la danse, la passion, les ailes, l'ardeur. Plus rien n'a de l'importance. Ce qui compte pour moi, c'est Dieu. Qu'importe ce que les autres peuvent penser ou dire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir deux autres choses qui ont fait que cet homme soit l'homme selon le cœur de Dieu. Donc la troisième des choses qui qualifie David à être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David s'occupait de Dieu et de ses intérêts en priorité. David s'occupait de Dieu et de ses intérêts en priorité. Les intérêts de quelqu'un, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui est profitable, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il place en première position. Et David plaçait Dieu et les intérêts de Dieu en première position dans sa vie. Dieu, ses intérêts étaient sa priorité. Et là, j'aimerais dire, parler des priorités, c'est parler de ce qui vient avant, de ce qui doit venir avant, de ce qui a préséance. Il y a plusieurs choses, mais je dis cette chose, je la place avant. Il est important que nous puissions savoir que nos priorités, c'est à nous de les définir. Sur le chemin de la vie, c'est à toi et à moi de définir qu'est-ce qui est important. Pour les uns, c'est la bouffe. Je me souviens quand nous étions étudiants, il y avait un slogan, pour la bouffe, nous mourons. Nous mourons. Quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Pour certains, la priorité, c'est l'argent. Pour certains, la priorité, c'est l'honneur. Nos priorités, c'est nous qui les définissons. C'est moi qui décide ça, ça va à la première place. Quand nous définissons nos priorités, c'est aussi à nous de les imposer. Et quand je dis les imposer à nous-mêmes et les imposer aussi à d'autres personnes. Seigneur, aide-moi à savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. Dans Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 5, Moïse parle à son peuple, au peuple de Dieu, et leur dit ce que Jéhovah dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul Éternel. Et il ajoute, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, ce que Dieu veut, c'est l'exclusivité. Dieu ne veut pas qu'on puisse le partager avec quelqu'un. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Dieu veut tout ou rien. Mais tu l'aimeras aussi de toute ton âme, que tes émotions participent. Mais tu l'aimeras aussi de toute ta force. Et pour David, Dieu était sa priorité. Dans Psaume chapitre 5, au verset 4, il dit, Éternel, les matins tu entends ma voix. Les matins je me tourne vers toi et je regarde. Très tôt quand il se réveille, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si David, il avait compris les principes que les Quinois disent, laissant Punda, Punda laissant. D'abord lui, si lui il est content, j'aurai tout. Dès le matin, il dit, et je m'adresse à toi. Dans Psaume 119, versets 147 et 148, il dit, je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Premières heures de sa journée, c'était Dieu. Pourquoi? Il avait conscience que Dieu était la source de ses ressources. Qu'il avait tout en Dieu et qu'il avait tout à cause de Dieu. Et je comprends pourquoi Dieu pouvait dire « l'homme selon mon cœur ». Mais les passages que nous avons lus nous montrent l'importance que David a placée. Pour David, Dieu, ainsi que les intérêts de Dieu étaient en premier. Nous l'avons lu dans 1 Chroniques chapitre 13, versets 1 à 5. L'une des premières décisions que David, en tant que roi, investit et prend. Dans les livres des Chroniques, cela ne ressort pas. Mais quand nous lisons 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 à 23, Samuel est plus chronologique que chronique. Parce que dans 2 Samuel chapitre 5, David est intronisé roi. Peut-être nous ne le réalisons pas toujours, ou peut-être nous n'avons pas suffisamment étudié la parole de Dieu pour savoir. Quand David est arrivé au trône, les pays étaient divisés. David travaillait chez Saül, et puis finalement Saül a commencé à vouloir les tuer. David a dû partir. Et quand il est parti, au départ, un groupe de personnes ont eu à les joindre, 400. Et puis finalement, des gens ont commencé à les rejoindre, il a eu un quartier général. Finalement, à un moment, il a eu un très grand quartier avec plus de 300 000 personnes. Mais quand nous lisons, finalement, quand Saül meurt, son fils Ish-Bosheth occupe le trône à Jérusalem, ou bien le centre de la nation. Et le pays est divisé. C'est un peu comme au Congo à une certaine époque. Et finalement, à un moment, David est intronisé roi, mais sur une petite partie. Et quand nous arrivons dans 2 Samuel 5, finalement, on vient chercher David à Hébron. Et on le fait roi sur tous les pays. Les poches de résistance n'ont pas encore totalement disparu. Je puis sincèrement penser, j'aurais été David, je penserais à bien des choses. Je penserais à stabiliser mon pouvoir. Je penserais à détruire toute poche de résistance. Je penserais peut-être d'abord à éliminer mes ennemis. Mais l'une des premières des choses que David fait quand il accède à la royauté, il dit, je veux que l'arche retourne. Dieu d'abord, Dieu a été absent depuis longtemps. Il s'est souvenu, ses parents lui ont dit qu'un jour Israël était en train d'être combattu et le peuple a amené l'arche. Non seulement qu'ils ont été battus, mais l'arche a été prise. 7 mois durant chez les Philistins. Et puis plus tard, c'est revenu à Kirjat. Et là, c'est resté une quarantaine d'années. Loin de son endroit, David voyait cela. David constatait qu'il y avait un problème et il n'avait pas l'impérium. C'est pas lui de changer les choses. Et quand il accède au pouvoir, Il dit l'une des premières choses que Dieu revienne. Parce que l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Il sait que je ne peux gouverner sans sa présence. Je ne peux rien faire sans lui. Lui, il est tout. S'il est à côté de moi, j'aurai la victoire. S'il est à côté de moi, aucune poche de résistance ne va résister. S'il est à côté de moi, aucun ennemi ne sera victorieux. Ce que je veux, c'est Dieu. 13 que nous venons de lire nous montre quatre choses qu'il avait aux yeux de David. La première, c'est les camps. Il décide de ramener l'arche. Comme je l'ai mentionné, dès l'accession au pouvoir. Et j'aime ce que 1 Chronique 13, verset 3 dit. Quand il appelle les gens à l'action, il leur dit, ramenons l'arche de Dieu auprès de nous. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Il avait vu au temps de Saül. Il dit, regarde cet homme. Il règne, mais ne cherche pas Dieu. Il règne, mais ne cherche pas à voir Dieu à ses côtés. Et David était un peu comme un vieux politicien. Il avait déjà son plan d'action. Beaucoup de gens accèdent au pouvoir et puis commencent à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Ils font la campagne et quand il arrive, ils commencent à dire, qu'est-ce que je vais faire? J'aime sous certains cieux, des gens écrivent des livres et programmes. Bien avant, voilà ce que je vais faire. Voilà ma vision. Dreams of my fathers. Il écrit avant, voilà les choses auxquelles je pense. Voilà mes priorités. Et David avait les yeux ouverts. Il voyait, il y a quelque chose que Saül ne fait pas. Il dit, nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. D'autres versions disent, nous ne sommes pas préoccupés d'aller la chercher. Donc les camps, d'abord ça, Dieu au milieu de nous. Deuxième chose qui montre l'importance des lâches aux yeux de David, c'est la qualité des personnes qu'il implique dans la prise des décisions. 1 Chronique chapitre 13 verset 1 que nous avons lu dit, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines. Et avec les princes, il va impliquer tout le monde. La chose est tellement importante. J'aimerais que vous compreniez avec moi combien l'arche est d'une grande importance. J'aimerais que vous ayez la même vision que j'ai de l'œuvre de Dieu. Troisième chose qui montre l'importance que David accordait à l'arche, la présence de Dieu, pour lui c'était la priorité. Ce qui ne laisse à personne le soin de conduire une telle délégation. Il s'implique personnellement. La Bible dit, David à la tête du peuple, avec tout le peuple qui était auprès de lui, il s'est mis en marche pour faire monter l'arche. Il n'envoie pas un général. Il ne cherche pas l'un de ses fils les plus élevés. Il ne cherche pas un prince héritier. Il dit, moi-même, je ne laisserai à personne. L'arche est tellement importante que j'aimerais me déplacer moi-même. Et il porte même ses habits royaux, il porte les attributs de sa grandeur, il dit, j'irai moi-même en personne. Et quatrième chose qui montre l'importance que l'arche a aux yeux de David, c'est la joie ainsi que les émotions que David exprime au moment du retour de l'arche. 1 Chronique 13, verset 8 dit, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Il y met la joie. Il met de côté les protocoles. Il met de côté tout ce que l'on peut dire en public. Voilà comment doit être un roi. Il connaît l'importance de l'arche. Il se réjouit que Dieu soit de retour au milieu de son peuple. Il se dit, ça fait longtemps, le cœur de Dieu voulait qu'il revienne au milieu de son peuple. Mais voilà, il y avait un homme négligent. Seigneur, aide-moi. Aide-nous à connaître tes intérêts et à les placer en premier. Et s'il est vrai que cette première tentative d'un Chronique chapitre 13 s'est soldée par un échec, pourquoi? Parce que le temps a tellement passé et ils ont perdu comment on gère l'arche. Ouza a dû être tué. Et quand Ouza est mort, tous ils ont tremblé. Et l'arche a dû aller chez Obed-Edom. Mais j'aime quand nous allons encore dans 1 Chronique chapitre 15. David n'est pas fatigué, il dit, malgré que ça a frappé, nous voulons que l'arche revienne. Il y met encore tous les moyens. L'arche doit, coûte que coûte, revenir. Seigneur, aide-moi à connaître tes priorités. Est-ce que vous connaissez les priorités de Dieu? Est-ce que vous savez ce que Dieu a en premier? J'ai un ami, un frère, avec les années, j'ai appris à l'apprécier. À voir combien cet homme aime et craint Dieu. J'étais un jour chez lui à la maison, on était en train de parler de tout et de rien. il avait un programme d'aller passer 3 jours à Mangengenge en prière. Un homme béni matériellement, un homme béni sur le plan financier. Et alors que nous étions en train de parler, quelqu'un l'a appelé et dit, telle affaire que tu as eu à faire, ça a marché, nous sommes en train de t'amener un chèque. Et le temps que je reste avec lui, on lui a amené un chèque d'$1 million. 1 million. 1-6-0. Et quand on le lui a donné, il a donné à son épouse, il dit, bon bango, on a que Mangengenge. J'ai regardé là, j'ai dit, Mfumunzambi. Je vois quelqu'un, comment il aurait des vertiges, même avec des zéros en moins. Il laisse 1 million. Pourquoi sa priorité, c'est Dieu. Il reconnaît que Dieu est la source de ses ressources. Quand je regarde, je dis, Batwa Boyoko, Nzambe Sura Mounibwa, Kanelobi Petit, 2 millions de Zoya. Mais que des gens qui ont des vertiges avec peu. Une femme me disait un jour, dit pasteur, il dit, la fidélité de mon mari est liée à l'absence des billets de banques en poche. Il dit, moins il a, plus il est fidèle. Alors on a lingaka et puis on a lingaka, lingangaï. Azanga. Ah, que des hommes qui sont à côté de leur femme simplement parce qu'il n'y a rien. Dès qu'ils ont un peu. Une autre femme me disait, pasteur, moi j'ai toujours géré mon mari quand il n'avait pas. Quand il n'a pas. Il dit, quand il n'avait pas, il était à côté de moi. Et quand il n'a plus eu, il est revenu. Quand il a, je ne le vois pas, je vois que son ombre. Donne-nous des gens qui placent les priorités de Dieu en premier. Alléluia. Alléluia. Et pour David, c'est l'arche, la présence de Dieu. Je ne laisserai à personne les soins. Donne-nous des hommes et des femmes qui cherchent tes intérêts. Et quand Dieu voit un tel cœur, il dit, je veux de tels hommes. Mais non seulement que David fait revenir l'arche qui montre la première des choses, montrant son cœur, ses priorités, la manière dont il gérait les choses qui appartiennent à Dieu. La deuxième des choses que David fait qui montre combien les intérêts de Dieu sont en premier dans sa vie. Il ne se limite pas à faire revenir l'arche, mais il restaure aussi la louange et l'adoration parmi son peuple. Nous l'avons lu dans 1 Chronique chapitre 16, verset 4 à 7. David fait une chose. Il remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aime beaucoup ce que le verset 7 dit. Ce fut en ces jours que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et le verset 37 que nous avons lu ajoute, David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement des services devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le terme servir là veut dire en premier qu'il me loue, qu'il me chante, qu'il me célèbre. Quand Dieu parle par la bouche d'Ésaïe, il dit, c'est un peuple que j'ai créé pour ma gloire, un peuple que j'ai créé pour qu'il me donne du poids. Quand il parle à son serviteur Malachi, il dit, ce peuple dit que je suis un père. Si je suis pour un père, où est l'honneur qui m'est donné? Il aime qu'il puisse être célébré. Il aime que l'on puisse les louer. Et la Bible dit qu'il veut que son peuple d'Israël, déjà les pauvres, soit un royaume de sacrificateurs. Et un vrai sacrificateur sacrifie. Un vrai sacrificateur donne à Dieu. Et Dieu désirait que son peuple puisse les célébrer, son peuple puisse les louer. Mais voilà, Saül a oublié cela. Et quand David accède au trône, non seulement il remet l'arche, mais il remet la louange et l'adoration au centre du pays. De nouveau, le Dieu qui était sévré de la louange et de l'adoration, il entend continuellement son peuple le louer. Cela nous montre qu'Azaph, il n'y avait pas de temps mort. L'histoire nous montre que c'était 24 heures sur 24 heures. Et Dieu du haut de son trône dit, c'est ce que j'ai désiré. Et Dieu qui est omniscient, voyait d'avance l'homme ayant un tel cœur, l'homme ayant de telles aspirations, il dit, puisque je veux de telles choses, ces choses ne se trouvent que dans le cœur d'une telle personne. Quand Dieu voit les aspirations d'un cœur, il peut élaguer, il peut enlever quelqu'un pour placer quelqu'un d'autre qui répond à ses intérêts. Seigneur notre Dieu, vois mon cœur et prépare mon cœur à être un cœur qui place tes intérêts en premier. Asaph et tout ce qui était à côté de lui ont commencé à célébrer Dieu, à louer Dieu. J'aimerais que vous sachiez que notre Dieu aime être loué. Il aime être adoré. Il aime être exalté. Dans Jean chapitre 4, verset 23, Christ lui-même déclarera que le Père était en quête d'une certaine catégorie de personnes, de vrais adorateurs. Il dit, voici les adorateurs que mon Père cherche. Dieu cherche cela. Dans Genèse chapitre 8, versets 20 à 21, il nous est parlé d'un acte que Noé a eu à poser. Un acte physique, mais qui a une grande connotation spirituelle. Quand il est sorti de l'arche, il a vu ce que Dieu a pu accomplir. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et j'aime ce que le verset 21 dit. L'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Dieu aime cela. Et la louange ainsi que l'adoration sont comme un parfum qui monte auprès de lui. Et il aime exhaler cela. Et David a fait revenir cette chose que Dieu aime. Ce que j'aime encore, c'est quand nous lisons Apocalypse au chapitre 5, verset 8. Et puis Apocalypse chapitre 8, verset 2 à 4. Il nous a parlé de quelque chose que nous allons expérimenter à la fin des temps. Il nous a dit que des encensoirs vont être ouverts. Et dans ces encensoirs sortiront des parfums qui sont des prières des saints. Et Dieu va les exhaler. Dieu va les sentir. Ah, il entendra ma prière. Il entendra ma louange. Il entendra mon adoration. Et David a remis la louange et l'adoration au centre parce qu'il savait que c'est ce que Dieu voulait. Il savait que c'est ce que Dieu aimait. Mais troisièmement, David ne s'arrête pas simplement à restaurer la louange ainsi que l'adoration. David va plus loin. En Chronique 17, au verset 1er, nous dit, David s'est dit, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Il n'est pas content. Il dit, comment moi je peux être dans le luxe? Ma maison est bâtie avec des cèdres. Le bois des cèdres a un bois spécial, un bois particulier. Il dit, non, il faut que Dieu puisse aussi avoir une demeure. Dieu doit avoir un endroit. Quand nous lisons la suite, Dieu n'est pas contre l'intention de David. Mais Dieu lui dit, toi tu ne le feras pas. Quelqu'un d'autre le fera, ton fils, parce que tu as tellement versé du sang. Mais j'ai pu imaginer Dieu est content d'entendre quelqu'un dire ça. Quelqu'un penser à cela. Quelqu'un dire, non, l'arche de Dieu ne doit pas rester sous une tente. Alors que moi, j'habite une maison spéciale. Il dit, non, non, il faut bâtir quelque chose pour notre Dieu. Jéhovah accepte l'idée. Et malgré que Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas le faire. David a tellement les intérêts de Dieu en tête. Lise avec moi, 1 Chroniques chapitre 22. Du premier verset au cinquième. Même si Dieu lui a dit non, David veut travailler. La Bible dit, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel de Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Il choisit les sites. Il choisit l'endroit. Il nous a même montré, il a acheté avec tout ce qu'il avait comme avoir. Mais écoutez la suite. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans les pays d'Israël. Il chargea des tailleurs de pierre, de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Ah, j'aime la suite. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de les peser, des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. On le lui avait fait cadeau. Mais lui dit, ça sera pour Dieu. Chaque fois qu'on venait lui donner, il disait, ça va servir. Il voyait dans le bois qu'on lui donnait, dans tout ce qu'on lui donnait, comment cela allait servir pour Dieu. Au verset 5, la Bible dit, David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Ça j'aime. Il a une vision de ce que sera la maison de Dieu. Cette maison n'est pas encore là, mais il dit, la maison que je vais bâtir pour Dieu, la maison pour laquelle je vais faire des préparatifs, sera une maison qui aura un degré de renommée élevé et un degré de gloire élevé dans tout le pays. Et j'aime la dernière phrase. C'est pourquoi je vais faire pour lui, pour Dieu, mais aussi pour son fils, des préparatifs. La dernière phrase du verset dit, et David fit beaucoup de préparatifs avant sans mort. Il a changé le train de vie de son présent afin que dans le futur le peuple puisse avoir quelque chose. Il s'est privé de certaines choses. Pourquoi? Il avait les intérêts de Dieu en premier. Il s'est dit Dieu, Dieu et Dieu. Moi, je vais partir, mais j'aimerais que ceux qui viendront puissent trouver tous les matériels, ainsi que tous les matériaux nécessaires pour la construction de ce bel endroit, pour la gloire de notre Dieu. Et si vous lisez avec moi, dans 1 Chronique chapitre 28, non seulement que David a rassemblé toutes ces choses, mais David s'est mis à réfléchir et puis il a amené tout le peuple à participer. Pardonnez-moi, 1 Chronique chapitre 29. La Bible dit au verset 1er, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Ouf, j'aime le verset 2. J'ai mis toutes mes forces, et pourtant elle n'en avait pas beaucoup, à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être des fers, et du bois pour ce qui doit être des bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. Waouh! Et il va plus loin, verset 3, il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Il a Dieu, ainsi que ses priorités, ainsi que ses intérêts en priorité. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Le pasteur Guillaume Bonouza, il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, a enseigné sur la dîme comme un concept spirituel. J'ai beaucoup aimé cet enseignement important que nous ne devons jamais oublier. Au travers de la dîme, Dieu veut que nous puissions lui prouver qu'il est le premier dans notre vie. Et les principes importants cachés derrière la dîme, c'est la primauté de Dieu. Cela me permet de dire une chose importante, retenez-les. Si la dîme est les un dixième, tout dixième n'est pas dîme. Est-ce que je me fais comprendre? Si la dîme, c'est les un dixième de nos avoirs, tout dixième n'est pas dîme. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans la pensée de Dieu, il veut que quand j'ai mon salaire, quand j'ai mon bénéfice, quand j'ai ce que je peux avoir d'une manière ou d'une autre, avant de faire toute dépense, Dieu, d'abord, j'enlève d'abord ce qu'il y a à Dieu, les un dixième, et ce n'est qu'après que je peux m'occuper de mes besoins. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas comme nous nous faisons. Tu as reçu ton salaire de 1000 dollars, vous avez déjà consommé. Chérie, moi, on retraite combien? 340. Maman, longola, tu me dis que ton beau salaire. D'après vous, c'est la dîme, mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la dîme. Est-ce que je me fais comprendre? Si la dîme, c'est les un dixième, tout dixième, la pensée que Dieu veut, c'est que lui, j'ai mon salaire de 100 dollars. Avant de dépenser les tout premiers dollars, j'enlève d'abord les 10. Je mets de côté, même si je ne vais pas encore payer, je mets de côté et ce n'est qu'après. J'ai vu des gens de voir quelquefois prendre des calculettes, commencer à tout réfléchir. Ce qu'on dit, maman, ce qu'on dit, j'ai très les bonnes. Et des fois, quand ils ont tout consommé, la dîme qui devait être de 100, ils restent avec 75. Je risque de s'en dégager. Tout le monde est en Zambé. La primauté. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et pour David, c'était Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord, il ramène l'arche. Dieu d'abord, il restaure la louange et l'adoration. Dieu d'abord, je ne laisserai à aucune autre personne le soin de préparer un endroit où celui qui a été tout et qui a tout fait pour moi est appelé à habiter. Quatrième chose qui a fait que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme plein d'humilité. Ah, l'humilité, une vertu qui disparaît de plus en plus dans notre monde. L'humilité, cette attitude faite de simplicité et de modestie. L'humilité, vertu qui nous rend capables d'avoir une juste image de nous-mêmes, une image réaliste. Attitude de celui qui sait qui il est, d'où il vient, quelle est la source qui a fait qu'il puisse avoir ce qu'il a, être celui qu'il est devenu. Attitude de celui ou de celle qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même. On dit l'humilité est la mère des vertus. Mais il a aussi ajouté, l'orgueil, c'est l'aîné de tous les vices. L'humilité a disparu Et l'humilité semblait être comme une des caractéristiques de David. Et cette humilité dans la vie de David, on la voit plusieurs reprises. Quand 1 Samuel chapitre 16, verset 19, nous montre l'humilité de David. Il vient d'être oint par Samuel, qui a prononcé cette phrase, prophète, où les sacrificateurs pouvaient prononcer, Israël, voici ton roi. Mais après cela, la Bible nous dit, David retourna pour garder les troupeaux de son père. On m'a oint, on m'a parlé d'où je viens, mais surtout où je vais, mais je laisserai à Dieu de faire ses travaux. Il a continué à garder les troupeaux de son père. 1 Samuel chapitre 26, chapitre 16 plutôt, verset 23, va plus loin en nous montrant l'humilité de David. Quand il est invité au palais royal, il joue la harpe pour le rejeter. Il sait, Dieu lui a dit, je l'ai rejeté. Mais il dit, je ne vais pas me placer sur ce trône, Dieu me placera. C'est Dieu qui va s'occuper, il vient, il joue à la harpe. Certains d'entre nous auraient été David et changeraient de démarche. On commencerait à dire aux gens, il faut me voir tel que Dieu me voit. Ce n'est pas parce que je suis jeune. Vous savez qui je suis? Allez demander à Samuel. Il vous dira qui je suis. Bakala mingite, saïli wanazo longwa, ngaïnde. Non, il a joué la harpe. Il a appelé mon Seigneur. Et Dieu disait, ça c'est les cœurs que j'aime. Ça c'est les gens de cœur que je veux avoir. Dans 1 Samuel chapitre 24, versets 7 à 8, alors que Saül est en train de les pourchasser, David a presque la possibilité de tuer Saül. Et de changer et son statut et le statut de tous ceux qui sont proches de lui. La preuve même, ceux qui étaient à ses côtés ont commencé à lui dire des choses. Écoutez ce que la Bible dit. Il lui dit, Dieu a donné ton ennemi entre tes mains. J'aime ce que le verset 7 dit. David dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Il appelle encore loin de l'Éternel. Sincèrement, j'ai la place de David, j'appellerai Saül autrement. Moutoumou Pépé Sila. Il appelle loin de l'Éternel. Malheur à moi, je ne commettrai pas une action telle que de porter ma main sur lui. Il ajoute, car il est loin de l'Éternel. Et écoutez ce que le verset 8 dit. Par ces paroles, David a ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Eux, ils ont une lecture. Si Saül est à notre merci, c'est que c'est Dieu. Bambaye, Nikaé. Il dit, je ne le ferai pas. Dieu dit, ça c'est les cœurs que j'aime. Il appelle encore loin de l'Éternel. Il dit, de ma bouche, je dirai ce que Dieu veut que je dise. Je ne laisserai pas mes émotions me conduire. Je ne laisserai pas mes sentiments me conduire. Seigneur, garde-moi de dire du mal du serviteur de Dieu. Garde-moi de me laisser aller. Toujours dans le même passage de 1 Samuel chapitre 24, verset 18 à 21. Finalement, quand David se lève, il appelle Saül au loin. Il dit, pourquoi tu me pourchasses? Pourquoi tu cherches à me faire du mal? Et je suis épaté. Quand Saül commence à parler, la Bible dit que David se prosterne. Parce que pour lui, Saül continue à être roi. Il se prosterne. Et j'aime la réaction. Vous savez, quand quelqu'un est méchant avec vous, même méchant, gratuitement, ne répondez jamais à la méchanceté par la méchanceté. On n'éteint jamais le feu avec le feu. David répond différemment. Et écoutez la réaction de Saül. Il dit à David, tu es plus juste que moi. Waouh! Car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Lui-même il reconnaît. Et il ajoute, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec la vie envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu m'as tué. Lui-même il connaît la théorie. Il dit, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquille chemin? Et il devient lui-même un bénisseur. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Maintenant, voici, je sais que tu régneras. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Waouh! Celui qui cherchait à tuer devient lui-même prophète. Il ne peut dire autrement parce que Dieu lui impose ses. Ah, comme je l'ai dit, quand nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu, la main de l'ennemi ne va pas l'atteindre. Dieu sait s'occuper de ceux qui nous combattent. Ma Bible à moi dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même. Oh, Dieu le fera. On va te nommer bon gré. Comme on est aux analystes aveuglés, on va s'assigner. Tant on va promener. Ah, on va signer qui? Irréversible. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. C'est pour cela, j'aime quand Dieu dit à son peuple, dit assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu sait les faire. Et Dieu voit ce cœur de David qui ne veut pas porter la main sur Saül, qui humblement place Saül devant. Mais l'humilité de David s'est fait aussi voir par sa reconnaissance. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a élevé. Dans 1 Chroniques chapitre 17 au verset 16, quand Dieu empêche David de bâtir les temples, la Bible dit, le roi là s'est présenté devant elle et dit, qui suis-je, éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Je voyais un roi, mais moi je sais d'où je viens. Il n'oublie jamais. Les gens humbles ont un rétroviseur toujours devant leurs yeux. Ils se rappellent d'où ils viennent. J'étais un jour dans la maison d'un homme qui a plus de 6 à 7 villas dans cette grande ville de Kinshasa. Je parlais avec lui, il s'est mis à pleurer. Il me dit, jeune homme, Dieu est grand. Je me souviens, j'ai perdu mon père très tôt. Et puis nous avons commencé à vivre avec une marâtre. N'était non plus, j'ai dû quitter les Kasaï occidentales à l'époque. Je revois les jours où j'ai pris ma valise et dit, je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai été un domestique à plusieurs endroits. J'ai étudié difficilement. Il dit, à l'époque, les termes n'existaient pas encore. Chegué, mais j'étais presque un chegué. Il dit, au grand marché, j'ai les dames qui vendaient à transporter des choses. Il dit, même avant, juste après les indépendances, il s'est mis à pleurer. Il dit, tout ce que j'ai, c'est Dieu m'a donné. Il y a eu ma force, il y a eu mon intelligence, il y a eu ma part. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et David dit, qui suis-je pour que Dieu me fait parvenir jusqu'où je suis. Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné. Et dans 1 Chroniques chapitre 29, verset 10, au verset 14, à la fin, au soir de sa vie, quand David veut partir, il fait cette belle prière. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Dieu de notre Père. À toi est la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, sur la terre, t'appartient. À toi, éternel, et les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et j'aime le verset 12. Il a beaucoup reçu, il dit, c'est de toi qui vient la richesse et la gloire. Ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il veut donner à Dieu, mais écoutez ce qu'il dit à Dieu au verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Ils ont fait beaucoup d'offrandes. Et j'aime la dernière phrase. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Waouh! En fait, ce que nous te donnons, cela nous vient de toi. Je me tapais la poitrine. C'est pour cela que j'aime quand mon frère et ma soeur du couple Boulouba, ils chantent, ils disent Namaka sinangaïte. Anguya nangaïte. Namolimonayo. Bonyonso. Et que c'est lui qui est tout, c'est lui qui fait tout. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ont le cœur de David, un cœur plein d'humilité. Et vous savez, en lieu, je suis étonné de voir comment Dieu aime l'humilité. Et l'humilité dans le cœur, dans la vie de David, ne se limite pas seulement à cela. Cela va plus loin. On le voit chaque fois qu'il lui est arrivé de fauter, de mal agir. Il avait la capacité de reconnaître ses torts. Quand il a fait tuer Uri, les maris de Bathsheba, 2 Samuel 12, verset 3. Alors que Nathan vient lui dire, c'est toi cet homme-là. Ma Bible à moi dit, David à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Quelle humilité. Dans psaume 51, un merveilleux psaume, on voit le cœur de David. Quand il a péché en tuant Uri, écoutez sa prière, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et mon péché. Verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est un roi, un suzerain. Il a le pouvoir total. Verset 6, j'ai péché contre toi seul, je fais ce qui est mal à tes yeux. Au verset 16, il dit, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta louange. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, dit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Michée chapitre 6, au verset 8, les prophètes disent, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 3 dit, les fruits de l'humilité associés à la crainte de Dieu, c'est la richesse. la gloire et la vie. Et Proverbe 18, verset 2 dit, l'humilité précède la gloire. Tellement humble que les femmes qui auront tué la mère des vertus. Je m'invite à baisser nos têtes dans la prière. Alors que nous tribu. Dieu et ses intérêts dans votre vie. Est-il de vous arriver? Il savait que Dieu voulait que l'arche revienne. Vous arrive-t-il de savoir qu'est-ce que Dieu aimait et qu'il ne voit plus? Et David a su que la louange et l'adoration avaient cessé. Et il a restauré la louange et l'adoration. David connaissait l'intérêt de Dieu. Il était dans la construction de la maison. Il a dit, je ne laisserai à personne le soin de mettre ses moyens. Si les autres feront, ça sera un bonus. Moi, comme j'en ai suffisamment, je donnerai mes moyens en premier. Mais David aussi était un homme humble.
Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui sera le
meilleur. Lève-nous tous un moment, s'il vous plaît.
Que mon pays soit ton sanctuaire.
Elle est ma prière.
De ta majesté.
Que mon pays soit un sanctuaire.
Pour changer l'image du monde. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration. Pour sceller mon unité, Seigneur.
Élevons ensemble nos voix. Élevons nos voix. Seigneur, aide-moi à connaître de nouveau tes priorités. Aide-moi à placer tes intérêts devant. Donne-moi le cœur de David. Donne-moi le cœur de David. Donne-moi le cœur de David.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Quelqu'un peut dire, il a gagné. A gagné Penza. Bisopeto gagne le Elongo. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer, sauter, crier pour le Seigneur? Nous allons louer ce matin avec assurance parce que l'Éternel a déjà tout accompli. Nakobi nana esengo po na yebi ke nazana nzambe na ngai. Alléluia. Nzambe azali. Alléluia.
Amen.
Là où Jésus avait tout accompli, là Il a gagné,
il a gagné.
Oh, je me souviens de ce jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'étais pardonné. Je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où avait tout accompli, là où je sens à laver tout mon être, là aussi j'étais pardonné. Il a gagné, il a gagné,
il a gagné. Lazare de la mort. Il est le Dieu.